Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, deux heures divertissantes et rieuses pour nous, compétitives pour les journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi s'affrontent au service de notre culture générale. Donc tous les après-midi de 16h à 18h avec leurs meilleurs sujets et en présence d'un invité. Alors vous le savez, durant les fêtes, nous vous avons offert une compilation de ces quatre derniers mois. Mathieu Noël a fait son retour d'ailleurs le 2 janvier avec un invité maison, Mathieu Béliard. Durant cette heure, il y aura aussi Bilal Hassani, on va retrouver Patrice Lecomte ou encore Patrick Timsit. Il était venu le 30 septembre dernier sur Europe 1 pour nous parler d'un film.
Vous êtes à l'affiche du nouveau film de Géraldine Nakache, J'irai où tu iras. On sait que vous prenez beaucoup de plaisir sur scène, Patrick, mais le cinéma, surtout quand c'est avec Géraldine Nakache et Leila Bekti, c'est pas mal non plus.
Hein. Oui, ça a été un magnifique rendez-vous, puisque maintenant, alors, je joue les rôles de papa, hein, puisque je suis le papa de Géraldine et Leila. Il a fallu l'accepter tout de suite, ce que j'ai fait immédiatement. Non, j'ai aucune gêne. Je rêvais d'aimer le scénario quand elle me l'a proposé. Je l'ai lu très vite et c'était oui, parce que j'avais vraiment l'impression aussi de connaître ce papa, le papa qu'elle me proposait.
Très différentes l'une de l'autre dans le film,
en tout cas. Oui, oui. En même temps, elles sont faites du même bois. Hein. Elles ont une sensibilité qui est complètement, pour moi, identique, parce que la même vie, c'est un père veuf, donc elles ont perdu leur maman probablement très jeune. Et deux voix tellement différentes, deux formes, je dirais, deux enveloppes qui sont complètement à l'opposé. L'une, c'est Leila qui est infirmière, qui s'occupe de personnes âgées. Alzheimer, et l'autre est dans les paillettes, et même dans l'ombre des paillettes, je dirais, puisqu'elle veut être choriste. Ce que je ne comprends pas, d'ailleurs, Leila. J'adore quand elle lui dit, mais enfin, comment tu peux rêver d'être derrière la chanteuse, quoi, tu vois, c'est pas possible, on rêve d'être chanteuse, pas d'être derrière, enfin, dans l'ombre et tout. Voilà, et c'est vrai que il y a tout cet esprit familial et puis l'histoire qui va être racontée par le film.
C'est la question qu'on se pose quand on voit le film. Est-ce qu'il y a du Patrick Timsit dans ce rôle? Est-ce que vous êtes un père comme ça ou pas du tout? C'est juste un pur rôle de composition.
Il y a trop de Patrick Timsit dans ce film. C'est ce qui m'a permis, ce qui m'a gâché la projection, la première projection. J'étais, sans le vouloir, ouais. Oui, quelque part, on finit par... Est-ce que c'est mon âge qui veut ça? J'avais du... Alors, je pense qu'il y a du papa de Patrick Timsit.
Bah oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir aussi deux enfants, deux garçons en l'occurrence, si je ne me trompe pas, ça vous a aidé à vous identifier avec ce papa ?
Non, mais j'ai fait quelques avant-premières et beaucoup de gens identifient ou leur père ou s'identifient en tant que parents. Mais oui, il y a ce côté papa poule. Vous savez ce que c'est qu'un père juif ? Une mère normale. donc forcément, je connais bien ça, ce petit sifflet. Nous, on a un sifflet familial, par exemple. Mais du coup, les enfants sont libres dans les supermarchés, puisque vous allez de rayon en rayon, quand vous entendez le... Vous pouvez manquer immédiatement. Vous savez que c'est le père qui appelle, comme dans le nid, vous voyez, avec l'oisillon qui redébarque. Donc tout ça, je connaissais. Et c'est aussi, bien sûr, le papa de Géraldine, mais de nombreux
que
pères.
Que vous avez rencontré,
ça,
je crois, le papa de Géraldine, vous l'avez rencontré pour préparer le rôle ou comme ça, incidemment?
Non, comme ça, incidemment. Mais enfin, quand on rencontre, on ne sait pas qu'on prépare un rôle, mais on pique de toute façon. Moi, je suis un curieux, donc toujours à piquer sans le savoir.
Justement, Géraldine Nakache, comment elle vous a dirigé, parce que je sais qu'elle est fan de vous, ça doit être compliqué de diriger, enfin, quand on vient vous chercher, on vient chercher Patrick Timsit, ça doit être compliqué de lui donner des ordres, lui dire non Patrick, c'est pas comme ça que je le veux, non, elle a pas eu de problème, elle a...
Pas aucun, alors elle... Tant mieux, il faut se sentir justement cadré, elle a un vrai regard, c'est une réalisatrice, elle a une histoire à raconter, et elle va prendre après des choses aussi que vous pouvez proposer sans le savoir d'ailleurs, on joue, on interprète, on sait même pas, enfin moi je sais même pas ce que je fais, je suis dedans, et puis après elle me dit ça va pas, on corrige ça, si on allait vers ça, tiens reprends-moi ça.
Au sujet de Géraldine Nakache, vous dites, à l'image des femmes réalisatrices avec qui j'ai travaillé, elle est venue chercher chez moi des choses intimes qu'on me demande peu ou pas au cinéma. C'est quoi ces choses intimes qu'on vous demande peu? Parce que pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes plus qu'un humoriste, enfin vous avez incarné toutes sortes de rôles, parfois très... très profond, très dur, dans le drame. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher chez vous?
De temps en temps, je ne sais pas, mais quand elle parle de moi, je regarde, je suis extrêmement surpris. Elle dit, regardez, ça se voit, vous voyez, la fragilité derrière ça. Ben, on voit qui c'est, quoi, on voit le cœur. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Moi, je suis là, peut-être très, avec une carapace, peut-être très en protection, finalement, sans m'en rendre compte. C'est vrai que Colline Serrault, la tendresse, la naïveté de Michou, je lui avais m'avaient pas donné. J'ai passé deux castings. Moi, le premier, j'ai été extrêmement mal élevé. J'étais en larmes après avoir lu le premier scénar en disant, mais c'est le rôle, c'est le rôle. Même le donnera pas. Donc, j'y ai été, mais très très mauvais élève. Un peu comme l'histoire du cric. Vous savez, le mec, il crève dans la nuit, un pneu, hein, bien sûr. Mais, et puis, il cherche un cric et il a vu un garage dans la nuit. Puis il va, il dit, mais je vais pas, 2h du matin, cet enfoiré, il va m'envoyer balader. Jamais il me prêtera un cric. Il a pas de cric. Il va, il sonne à la porte et le garagiste dit oui, monsieur. Il ouvre la fenêtre, il allume la lumière. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'autre lui dit, ton cric, tu peux te le foutre au cul. Tu vois. Et vraiment, j'étais tellement remonté que j'ai décrit un Michou complètement profiteur. Elle me dit, mais il est quand même gentil, ce Michou. Mais c'est de la naïveté. C'est non. C'est... En sortant, j'ai dit, mais quel prétence-lard. T'es vraiment un prétence-lard. Enfin, t'es un génie, mais elle l'aurait pas vu, quoi, si tu lui avais donné ça. J'ai dit, mais tu te fous de qui? Et puis elle m'a laissé repasser une deuxième fois le casting. Voilà. Et elle m'a dit, t'as bien fait, c'est toi. Donc, Géraldine, allez chercher aussi de, moi, j'appelle ça du rien. Mais en fait, c'est du tout, quoi. C'est du. Il n'y a pas à composer. Elles sont là et elles viennent chercher à l'intérieur.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Cette annonce cet été, une annonce que je n'ai pas beaucoup appréciée. Votre prochain one-man show serait aussi le dernier. Est-ce que c'est possible de mettre un veto ou de faire on peut se cotiser sur change.org, une pétition? C'est pas possible, ça, Patrick. Pourquoi ça serait le dernier?
Eh ben c'est exactement la réaction que j'attends, justement, qu'on me demande pourquoi.
Non, mais parce qu'il y a des humoristes qui s'essoufflent, mais vous, le dernier spectacle était tellement, on peut le dire, il était dingue, le dernier spectacle. Vous êtes sur la pente encore ascendante. Pourquoi arrêter maintenant?
Mais parce que ça fonctionne, parce que justement, parce que la vous allez vous ennuyer. Spectacle de trop, peut-être, et de se dire, voilà. Et puis, alors c'est vrai que le thème des adieux, je me rends compte, puisqu'on a commencé à l'écrire, là, vraiment, il est construit et tout, mais là, maintenant, on rentre dedans. C'est un vrai thème, donc ça vaut le coup de vivre ces adieux quand on vous dit non, pars pas, plutôt que dégage ou je viens pas. Il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse partir, quoi, vous voyez le principe.
Ouais,
et c'est vrai, c'est pour ça que j'y crois.
Vous y croyez, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà même trouvé le titre du spectacle d'après.
Oui, c'est vrai, je l'appellerai Oups. Je m'a trompé. Oups, je m'a trompé. Non mais si vraiment à un moment, je crois que c'est Christopher Robach qui est mon agent et mon ami, mais surtout mon ami, ça voudrait dire qu'il bosse pas assez bien. On sait pas quoi dire.
Oui,
alors, non, surtout mon agent. Alors je suis pas ton ami alors. Et qui me disait, je sais plus ce qu'il me disait parce que on parlait de quoi.
Ouais. Si jamais vous n'arrivez pas à partir, il y aura un autre.
Ouais, il me parlait justement. Alors je crois que c'est Nana Mouskouri qui avait dit adieu, et elle s'emmerdait tellement à la maison qu'elle a dit, mais c'est pas parce que j'ai dit adieu qu'il faut plus que je remonte sur scène, et elle est remontée sur scène.
Évidemment.
Voilà. Mais non, ouais, là vraiment, c'est pas ni un coup, un effet de pub ou quoi que ce soit, je le savais déjà même quand je saluais les dernières fois dans le spectacle d'avant, en me disant, waouh, ça va être dur, ça va être très dur, et je crois que je ne soupçonne pas l'émotion que ça peut provoquer, mais les adieux,
vous,
c'est vraiment...
Patrick Timsit, tous les jours, à cette heure-ci, pour se détendre, un petit quiz thématisé oppose notre invité à Eva Rock. Et en hommage au film J'irai où tu iras, vous êtes le père de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, on fait un vrai faux sur les relations père-fille. Des relations pas toujours faciles.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Parfois, pas toujours simple d'élever une fille. Vous répondez chacun votre tour, chaque bonne réponse vaut un point. Patrick Timsit, la fille aînée d'Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, est entrée au couvent des Ursulines, Ursulines Covent, à la Nouvelle-Orléans, à l'âge de 16 ans. Elle y est toujours aujourd'hui, vrai ou faux?
Moi je dirais vrai. C'est pour se débarrasser, pour être libre de pouvoir vivre.
C'est vrai.
Parce que vivre cette vie sous le regard de sa fille, je préférerais qu'elle soit au couvent. Parce que là, si elle est dans la même maison, et dans les mêmes petits-déj, et dans les mêmes soirées, à un moment, il y a quelque chose de raté.
C'est vrai. Il aurait dû l'y mettre, si j'ose dire. Par contre, la fille de Peter Falk, l'acteur de Columbo, est détective privée.
Ce qui n'a aucun rapport.
Oui, mais si.
Oui.
Le lien père-fille.
Oui.
Mais Eva, je vous interdis de critiquer mon quiz.
Pardon.
Sinon, c'est excellent, attention. Ce quiz.
Oui, très bien. Vraiment très bien.
Oui.
Allez-y, posez votre question.
Eva Rock, la grenouille de Darwin d'Amérique du Sud naît par l'anus du mâle de l'espèce. Vrai ou faux?
Je sais, mais je vous aiderai pas.
Non, mais non. Je dis non.
Ah oui, non, effectivement.
Mais faire des questions
elle
comme
a une
ça.
Spécificité, c'est pour ça qu'on pose la question. Elle naît par la bouche. La femelle abandonne des œufs fécondés dans la bouche d'un mâle qui n'est d'ailleurs pas forcément le père biologique. Il les garde jusqu'à éclosion dans la bouche.
C'est un bon papa.
Fascinante nature. Attention, tous les deux. Une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Jonathan Soriano joue au foot en Autriche à Salzbourg. Un soir, il arrive en retard, seulement à la mi-temps du match, car il est allé assister à la naissance de sa fille. Que s'est-il passé ensuite? Trois propositions. 1. Il a mis 3 buts. 2. Il a appelé sa fille Goal. 3. Il est resté sur le banc de touche et il a eu bien les boules.
C'est difficile hein, de savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot.
Surtout autrichien.
C'est vraiment compliqué. Hein. Ah, vraiment. Non, moi je le vois bien marquer 3 buts.
3 buts.
C'est vraiment. En tout cas, il en a rêvé. Il rêvait sur le banc de touche qu'il allait marquer 3 buts en 10 ans goal.
Ah, je pense qu'il est resté sur le banc de touche.
Ouais, ben c'est Patrick Timsit qui remporte le point. Ah, non seulement il a mis 3 buts en 45 minutes, mais en plus il a offert la victoire à son équipe. En plus, Salzbourg, je crois que c'est une équipe de Ligue 1 en Autriche, donc c'est pas un match de campagne. Quoi. C'est vraiment une très belle affiche. Égalité dans ce quiz. Ah, j'aime bien, comme ça, distribution égale des points.
C'est
et il n'y a pas de déçu, l'invité.
Il n'y a pas une question pour départager.
Non.
J'aimerais
non.
gagner, moi.
Oui.
Je vous laisse la victoire.
Oh, comme c'est mignon.
Je vous laisse la victoire.
Moi, je vous l'offre.
Oh, c'est gentil. Merci.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1.
Avec Mathieu
L'équipe
Noël.
Est sauvage.
Mathieu Noël et Varrock et le reste de l'équipe est sauvage. Le premier invité de l'année n'était autre que Mathieu Béliard, présentateur de la matinale 6h, 9h sur Europe 1. Et la compétition a repris aussi cette semaine avec Ève Roger. C'était jeudi.
Ce n'est pas n'importe quel journaliste que nous allons écouter maintenant. Elle occupe la deuxième place du championnat européen des meilleurs journalistes. Et si elle a laissé échapper la pole position, Ève Roger le sait, c'est la faute à son goût pour la boisson qui parfois lui joue des tours et pas uniquement sur le plan professionnel.
C'était vendredi soir, on avait bu de l'alcool, non? Donc il m'a mis...
Oui, bref, pour elle, comme pour beaucoup d'entre nous, l'opération janvier sans alcool est une aubaine.
Et oui, alors on va commencer simplement. À qui est destiné ce mois sans alcool? À tous ceux qui ont le sentiment... diffus qu'ils boivent un peu ou un peu trop souvent, en tout cas plus que les recommandations officielles que vous connaissez maintenant par cœur. C'est quoi les recommandations officielles?
L'alcool tous les 10 jours.
Mais
attendez, c'est Eve qui me l'a répété plein de fois. C'est il faut pas boire tout pendant 10 jours. Non,
il y a 10 jours.
Un verre par jour, mais pas tous les jours.
Alors c'est 2 verres par jour. Et pas tous les jours, ce qui fait 10 verres par semaine, voilà
10,
le chiffre
10. 10, voilà. Vous n'étiez pas loin, Mathieu, vous n'étiez pas loin.
Donc en tout cas, et pas 2 jours sans boire.
Donc alors, on reprend à zéro, 10 verres par jour, pas plus.
Non, pas par
là,
jour, par semaine.
Non, ah oui, pardon, alors d'accord, ok, alors par semaine, oui.
10 verres par jour, par semaine, et 2 jours sans alcool du tout. Alors j'ai fait le test dans une famille lambda, hier, c'était déjeuner rituel du 1er janvier, vous allez entendre dans l'ordre la grand-mère de 80 ans, la fille de 18 ans qui va avoir 18 ans courant janvier, et le père de 45 ans, et j'aurais demandé qui se lance dans le trajet. Je vous laisse deviner qui va se lancer. On va commencer par écouter la grand-mère.
Pas du tout, parce que j'aime l'alcool. Et puis, je trouve ça triste quand même. Je préfère boire un petit peu.
Qui va faire Dry January ici?
Bah, vu que je vais avoir 18 ans, ça me paraît compliqué d'être sobre le jour de mes 18 ans.
Je vais essayer, ouais. Mais je sais pas si je vais y arriver.
Pourquoi tu veux le faire?
Perdre du poids et puis être en bonne forme. C'est la première fois. J'appréhende pas, mais je sais pas si je vais y arriver. Ouais, bah en janvier, il y a le ski, c'est l'hiver, tout ça.
Ah oui, donc là, t'as commencé aujourd'hui, là?
Ouais, mais bon, je sais pas si ça commence le 1er ou le 2. Parce que quand même, avec les huîtres et tout ça, et le fromage, ça va être difficile.
Vous avez compris, il faut encourager. Il s'appelle Étienne, il faut l'encourager.
Alors, est-ce qu'on sait combien de personnes vont le faire en France, ce dry January, ce janvier sans alcool?
Alors, c'est trop tôt pour le dire, mais en Grande-Bretagne, où il existe depuis 7 ans, il y a déjà 4 millions de Britanniques qui le font. En Belgique, je vous ai déjà parlé de la tournée minérale, c'est un Belge sur 5. Donc en France, ça va sans doute se compter par milliers, peut-être par millions, grâce au site créé pour l'occasion qui s'appelle dryjanuary.fr. Parce que maintenant, les effets bénéfiques et concrets, on les connaît parfaitement bien, c'est-à-dire un sommeil de meilleure qualité, plus d'énergie, une perte de poids, 2 à 3 kilos pour le mois. Ça, j'aurais dû commencer par là, parce que c'est vraiment une bonne motivation, une plus belle peau et puis évidemment des économies. Mais le plus intéressant dans ce mois sans alcool, c'est la prise de conscience du rapport qu'on a soi-même à l'alcool. Il y a ce verre qu'on prend automatiquement parce qu'on va boire un pot avec des amis. Est-ce que vraiment on en a envie? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Donc là, pendant ce mois, on va s'entraîner à faire autre chose, puisqu'on n'a pas le droit de boire.
C'est parce que ça peut paraître anecdotique, ce dry January, mais ce que je trouve bien, en fait, c'est l'aspect collectif, parce que souvent on boit parce qu'on est parce que tout le monde boit en fait autour.
Et
de
oui,
nous,
parce que
il y a un côté
a une
social.
Pression.
Là, si effectivement beaucoup de monde participe à ça, ça va nous inciter à moins.
Mais ce qui est très intéressant aussi, il y a ça, mais il y a aussi ce que je trouve encore le plus intéressant, c'est qu'en fait, celui qui ne boit pas en France, dans notre culture, c'est le rabat-joie.
Ah oui.
Et je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote avec une amie que nous connaissons tous ensemble ici. Je vous citerai peut-être son nom tout à l'heure. L'année dernière.
Attendez, je réfléchis. Une amie qui a.
Je vous raconte l'histoire, vous allez deviner qui c'est.
C'est quelqu'un de la rédaction d'Europe 1.
C'est quelqu'un qui boit beaucoup.
Oui. L'année dernière, je faisais le Dry January. On va boire un pot au café d'à côté. Moi, je commande un mojito sans alcool, mais elle n'était pas encore arrivée. Elle arrive, elle prend un rosé, et quand elle découvre que j'ai pris un mojito sans alcool, quand elle découvre que je prends un mojito sans alcool sans l'avoir prévenu, mais elle se fâche et elle quitte la table.
Mais non.
Mais je vous assure, parce que c'était comme une trahison, c'est-à-dire quand vous disiez la convivialité, eh ben on boit ensemble. Donc je vous laisse deviner qui c'est.
Anne Le Gall.
Non, c'est Mélanie Gomez.
Mélanie Gomez. Voilà. Oh oui, Mélanie Gomez qui est juste avant nous pour l'émission santé. Ça ne m'étonne pas de Mélanie. Hein.
Non mais on est tous là dans notre service société. On est 8, il y en a 4 qui font le Dry January. Donc là, vous ne pouvez pas nous avoir. Hein. Bon.
On va surveiller surtout.
Donc, comme j'ai déjà fait, on a déjà nombreux. La question, c'est savoir est-ce que c'est difficile de le faire. Bah, alors, il y a des obstacles sur lesquels on bute tous, c'est-à-dire, par exemple, Mélanie Gomez, son anniversaire, c'est au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire?
Tous les éléments sont réunis contre elle.
Est-ce qu'on boit quand même une coupe de champagne le jour de son anniversaire? Oui, c'est possible. Mais franchement, au bout de 2-3 soirées, comme ça, on se rend compte qu'on s'amuse vraiment autant que les autres. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on n'a pas?
On est bien.
Et on n'a pas la gueule de bois.
Et ça, c'est déjà voilà. Eva, vous aviez un commentaire sur la situation?
Non, mais Mathieu Béliard, vous n'avez pas ce problème-là parce que vous ne pouvez pas boire
on
avec.
On boit très peu en matinale.
Oui, mais on m'a dit que vous vous rattrapiez le week-end.
Ça peut arriver. Ça, c'est plus anglo-saxon, a priori, parce que je crois que c'est le problème des Français. C'est d'avoir ça comme culturellement dans chaque repas, etc. Contrairement à d'autres anglo-saxons qui vont plus pratiquer le binge drinking.
Voilà, je parle sous ton contrôle. Même si les Français commencent à se rapprocher de ce modèle-là, on boit à partir de jeudi, vendredi.
En tout cas,
et puis
ceux
après
qui
beaucoup
font une matinale. Voilà. Parce Non, en revanche, il faut le dire, c'est très économique la matinale là-dessus.
Ah, c'est vrai.
Au bout d'une bière, vous le savez par cœur. Mais au bout d'une bière, ça monte déjà à la tête. Et puis, il n'y a pas besoin de.
C'est vrai qu'on est pompette.
C'est bien ces bons conseils d'alcooliste juste après la chronique de l'ingénierie.
Alcoolique avec modération, évidemment. Les amis, merci beaucoup, Fred Roger.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
16h28, on retrouve Mathieu Noël pour votre compilation du week-end. Retour sur l'après-midi du 28 octobre. Le cinéaste Patrice Lecomte était invité à l'occasion des 40 ans des Bronzés.
Patrice Lecomte, ensemble, on fête les 40 ans des Bronzés fonds du cirque. Un coffret absolument collector. L'expression est souvent galvaudée. Tout est collector aujourd'hui, mais enfin là, c'est collector parce que le film a été remasterisé, comme vous nous l'avez expliqué, et en plus, il y a plein de bonus dedans. Est-ce que ce film culte a toujours été pour vous une bonne étoile, Patrice Lecomte, ou bien, à certains moments de votre carrière, l'étiquette des Bronzés a pu vous peser pour monter d'autres films?
Non, sincèrement, non. Il m'est arrivé assez souvent, quand je me suis mis à faire des films qui n'étaient pas directement des comédies, il m'est arrivé de rencontrer les journalistes qui me disaient « Bon, alors les Bronzés, on oublie. » J'ai dit « Mais attends, vous me plaisantez, on oublie. » C'était des films extrêmement importants, ça a changé ma vie. Le premier film qui s'appelait « Les WC de Fermé de l'Intérieur » et Coluche et Jean Rochefort avait été un bide assez retentissant.
Les WC étaient fermés de l'intérieur ?
Oui, moi j'adorais ce film.
Oui, mais ça aussi, c'est mythique. Rétrospectivement, à l'époque, ça n'avait pas marché, c'est ça ?
Non, du tout. Maintenant, le film est pareil du charme du démodage, on peut dire. Et donc, il y a prescription, ça va. Mais mon deuxième film, c'était Les Bronzés, puis Les Bronzés font du ski. Et c'est vrai que ces films-là ont changé ma vie, quoi.
Alors, justement, c'était le début de votre carrière de réalisateur, Les Bronzés. Et c'était pas vous qui deviez réaliser à la base. En tout cas, ça aurait pu ne pas être vous. Disons que vous n'étiez pas.
Oui, c'est-à-dire que je m'entendais bien avec les gens du Splendide qui étaient devenus des amis, qui eux avaient eu le bon goût d'aimer mon premier film. On se voyait, on sympathisait, etc. Et quand il a été question, quand Yves Rousseyroir, le producteur des Bronzés, leur a dit. On va adapter, ça s'appelait Amour, coquillage et crustacé, la pièce qui est devenue Les Bronzés. Et Yves Rousseyroir, le producteur, voulait leur mettre dans les pattes un réalisateur confirmé, quelqu'un qui a de la bouteille, Molinaro, Zidi. Et il y a même eu Jean-Jacques Hano, je crois, sur le coup. Au Splendide, ils ont été extra. Je leur dois beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ont dit non, nous, on veut travailler avec un type qui ne va pas prendre possession du film, un type avec qui on s'entend bien, un type de la même génération, un type qui rit des mêmes choses que nous. Et on va faire le film avec Patrice. Et donc, ils ont insisté, et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux commandes.
Heureusement. Eva Rock.
Est-ce que c'est vrai que pour les dialogues, chacun avait son personnage et développait les propres dialogues de son personnage, et il y avait des sortes de séances communes entre tous?
Le film a été, enfin, l'adaptation de Amour, coquillage et crustacé a été un travail collectif, absolument. Donc, ils étaient 6, moi j'étais le 7e, comme les nains, ou les merveilles du monde, mieux, ou les péchés capitaux parfois. Enfin, bref, 7, il y en a plein. Et les mercenaires.
Et c'est pareil.
Enfin, 7, il y a plein de 7. Hein. Et on disait quoi avant?
Qui écrivait quoi?
Alors, effectivement, chacun n'écrivait pas son personnage, mais il le nourrissait, il l'alimentait, mais avec l'accord des autres. C'est-à-dire que s'il y avait une vanne qui ne plaisait pas aux autres, on la virait. Donc c'est très collectif. Quoi.
Alors,
c'est quand même 6 ans d'écriture. Hein.
Ah oui, c'est ça. Mais j'allais vous demander, mais ça a pris combien de temps? Parce que pour que tout le monde s'entende.
Mais c'est, ce qui n'a pas pris trop de temps, c'est que les personnages étaient déjà dessinés, ils existaient. Donc il y avait plus qu'à organiser tout ça.
Le mot dans les bronzés 1, le premier bronzé, le mot clubman n'est jamais cité, mais eux, ils s'inspirent beaucoup de l'ambiance club du clubman, où la troupe du Splendide se rendait au clubman pour faire des... Je crois qu'ils avaient un deal, ils faisaient quelques spectacles et ils avaient une semaine de vacances gratuite, c'est ça à l'époque?
Oui, c'est ça, ils allaient faire les spectacles club et en échange de billets, logements, une semaine de vacances, ils ont rodé plein de spectacles à eux là-bas.
Et puis comme ça, ils ont pu sentir l'ambiance et nous faire profiter de tout ça.
Oui, mais alors, juste petite parenthèse, ce qui est poilant, c'est qu'eux, ils connaissaient le club par cœur. C'est comme ça qu'ils ont écrit à mon coquillage et crustacé. Et quand ils m'ont proposé le film, j'ai dit oui, c'est super, mais je leur ai jamais dit que j'avais jamais foutu les... À l'époque, j'avais jamais mis les pieds au club. Donc quand on parlait de Géo, GM, Question Café, Spectacle Club, je disais ouais, c'est bien. Ouais.
C'est super, ouais.
Mais mais j'avais peur de me faire virer, en fait. Aussi, si je leur dis que je suis... Ils vont appeler Zidi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Patrice Lecomte, le thème du quiz qui vous oppose à Eva est en rapport direct évidemment avec le coffret DVD qui sort la semaine prochaine sur les bronzés fonds du ski. C'est un quiz sur le ski. Une bonne réponse vaut un point. Patrice Lecomte, il existe un record d'athlétisme de 100 hauteur, mais avec des chaussures de ski. Vrai ou faux?
Et ça, c'est pour moi. C'est faux.
C'est faux, bien vu. Par contre, ça aurait pu être tout à fait vrai puisque le record du marathon en chaussures de ski existe.
Ah bon?
Le marathon en chaussures de ski, 5h30, c'est le record. Hein, le temps normal, c'est 2h01, comme quoi ça va moins vite avec des chaussures de ski. Eva Rock, la fausse neige, c'est de la vraie neige. Par contre, il n'y a pas de flocons. Vrai ou faux? Réfléchissez bien.
Alors ça... Attendez, pourquoi il n'y aurait pas de flocons Bah non, il y a des flocons. Ouais.
D'accord. Eh bien non, c'est vrai.
Ah bon?
On résume, la neige artificielle est composée de la même matière que la neige naturelle, mais il n'y a pas de flocons pour la neige artificielle, à savoir les jolies petites formes de cristaux de glace qui se forment.
Mais pourquoi?
Vous savez, il n'y en a pas. On ne peut pas le reproduire, parce que chaque flocon est unique dans la nature.
Vous êtes sûr de ça?
Bah écoutez...
D'accord, je me sens pas serein sur cette réponse.
Je suis confiant. D'accord. Sébastien Bordenave qui prépare ce petit quiz pour moi. Eva Rock, Patrice Lecomte, on rejoue ensemble tous les deux. À Pitea, au nord-ouest de la Suède, il fait souvent moins 60 degrés. Le soleil ne brille que 4 heures par jour, mais les pistes de ski ont quelque chose de particulier. Quoi donc? 3 propositions. 1. Il y a des pistes naturistes et des chalets échangistes. 2. Il y a une piste, visiblement Anissé va en vacances là-bas. 2. Il y a une piste que l'on peut descendre avec un casque virtuel pour avoir l'impression de skier sur de la lave. Ou 3. Il y a un McDo. À Pitea, au nord-ouest de la Suède.
Moi, je pense, parce que je trouve qu'ils sont capables de ça, je pense que c'est la première réponse.
Des pistes naturistes?
Ouais.
Anissé fait oui de la tête. Eva.
Et moi, j'aime bien l'histoire du casque virtuel, là.
Il aime bien le casque virtuel, moi. Oui. Bah vous avez faux. Et Anissé et Patrice pourraient partir peut-être pour une petite piste noire naturiste, si ça existait, car c'est faux. Il y a simplement un McDo, le Maxki, le seul Maxki qui existe. Il peut recevoir 140 personnes à l'intérieur et vous pouvez également emporter une sorte de McDrive, mais en scooter des neiges.
On peut pas dire que la première réponse était quand même plus sympa et qu'on l'apprend.
Oui, mais il faudrait qu'il le crée.
Moins 60 nus.
Ouais.
Oui, moins 60 nus, bah, il faut du courage. Mais
pas du courage.
Arrêtez, je vais visualiser. Patrice Lecomte, en France, une boisson sans alcool est taxée à 5,5%. L'alcool a une TVA à 20%. Mais dans les départements ayant une frontière avec un pays étranger où on peut skier, le vin chaud est taxé à 25%. Vrai ou faux?
Le vin chaud?
Le vin chaud.
Mais alors, à combien il taxe de planter du bâton?
Peut-être le planter, bâton.
Le vin chaud à 25%, non, c'est faux.
C'est faux, mais voilà. Il déjoue tous les pièges. Par contre, il existe une taxe ridicule, une taxe ski de fond, prélevée par les collectivités territoriales. Elle rapporte environ 11 millions par an. Elle finance notamment l'entretien des pistes. Ça, vous ne le saviez pas, Eva.
Non.
Eva Rock, attention, c'est la question qui vous permet peut-être de recoller
ou pas.
Non,
j'ai déjà perdu.
Non, vous avez déjà perdu.
Oui.
Quand Patrice Lecomte a réalisé les bronzés fonds du ski, il a coupé au montage plus de 30 minutes, mais il ne les a jamais gardées. Du coup, ces scènes sont définitivement perdues. Vrai ou faux?
Ah, je dirais que c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai.
C'est vrai, Eva.
C'est vrai.
Le premier montage faisait 2h10. Comment c'est possible, Patrice, d'avoir jeté les rushs?
Mais non, on ne les a pas jetés. C'est-à-dire qu'on a monté le film, on a coupé pas mal parce qu'on avait trop écrit, parce qu'on se disait on verra bien plus tard. Et en fait, les rushs, les doubles, les premiers montages, les scènes coupées sont gardées. pendant un certain temps, c'était support film à l'époque, sont gardés pendant un certain temps au laboratoire et au bout d'un temps X, le laboratoire prévient la production en disant on va mettre ça au pilon, est-ce que vous voulez garder ça? Mais enfin, c'est très volumineux.
Mais c'était combien de temps après?
20 ans après, 15 ans, 10 ans après.
Et 10 ans après, vous n'êtes pas dit on va utiliser ces...
Non, le producteur a laissé mettre ça au pilon, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore la notion des bonus et tout ça,
oui,
des director's cut et compagnie, mais il y avait des bonnes scènes.
Vous n'aviez pas la notion des bonus, mais là, en regardant les bonus justement du coffret, il y a quand même pas mal de trucs que vous avez pensé à l'époque même de la sortie du film. Il y avait plein de teasers en fait, où chaque membre du Splendid venait face à la caméra faire un petit speech.
Oui,
c'était très moderne ça à l'époque.
C'était le film annonce était constitué de ça. La bande annonce du film, on avait fait ça pour les bronzés numéro 1, les bronzés aisés. Et chaque personnage face caméra dit pourquoi il est là à la neige, comme il disait pourquoi il au club.
Les Bronzés 3, il y a eu Les Bronzés 3 il y a quelques années, qui a fait en fait finalement beaucoup plus d'entrées que Les Bronzés en salle. Ça a été un carton total. Ouais. Le film n'a pas eu des très bonnes critiques en revanche. Ça, c'est quelque chose qui vous a blessé, vous avez fait le film que vous vouliez, vous étiez un peu déçu vous-même?
Non, on est conscient je suis tout à fait conscient des limites du film, de ce que... Mais bon...
Il y avait une telle attente, quoi.
Oui, mais le film, enfin, je vais me la péter deux secondes, après je vous promets, j'arrête, mais le film a fait près de 11 millions d'entrées.
Ouais.
Et 11 millions d'entrées, c'est quand même plus valorisant que des... Enfin, que des critiques pas bonnes ou des gens déçus. Mais si le film avait vraiment été naze, ça serait su très vite.
Oui, le bouche à oreille n'aurait pas fonctionné du tout. Ça serait possible, Les Bronzés 4, c'est quelque chose qui est en projet ou pas ?
Quand on a fait le 1, on a dit jamais le 2.
Donc peut-être le 4
un
jour.
Le 2, jamais le 3. Donc comment dire, jamais le 4.
Tous entre amis, on se réunit chaque année pour regarder Les Bronzés font du ski, dans chaque foyer de France peut-être, j'imagine. Est-ce que l'équipe du Splendid, aujourd'hui ils ont tous eu des carrières tellement incroyables, chacun de leur côté, est-ce qu'ils sont toujours potes aujourd'hui? Est-ce qu'eux, ils se retrouvent pour voir Les Bronzés ensemble?
Ah non, ça je crois pas qu'ils fassent des soirées karaoké bronzés ensemble sur le même canapé, mais le titre du numéro 3, c'était Amis pour la vie, et c'est vrai, c'est pas frelaté du tout.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa grande complice Eva Rock et les journalistes compétiteurs d'Europe 1, car l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition. Et le 23 octobre dernier, Anis Embida, notre spécialiste innovation, tentait de captiver Bilal Hassani, qui était venu nous parler de son livre singulier, édité chez Plon.
Anissé, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intelligence artificielle qui va nous aider à compter enfin les manifestants?
L'idée, c'est d'en finir avec toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui, hein, quand il y a la moindre manifestation. L'idée, c'est de compter physiquement, d'avoir ne plus faire d'estimation, mais d'avoir un comptage extrêmement précis des personnes présentes. Alors, comment ça va fonctionner? On va soit utiliser des hélicoptères, des drones ou des avions pour faire des photos
bien, ça va pas coûter
aériennes.
Cher.
Non, mais il y a souvent des manifestations qui sont surveillées par la police. On fait des photos d'ensemble. Et de cette photo-là, on va être capable de compter. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui va le faire, parce que vous imaginez de faire
la main, Baroque,
c'est quand même extrêmement compliqué. Et donc, il va compter chaque personne une par une. Là où ça va très loin, ce système, c'est si une personne est masquée par un arbre ou masquée par une banderole, le système est capable d'extrapoler en fonction des gens qui sont à côté, en fonction de la topologie, etc.
Ça a déjà été testé quelque part, votre truc?
Alors, ça a été testé quelque part sur les images sur la manifestation à Barcelone. Vous savez qu'il y a des manifestations en Catalogne aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été fait sur celles qui ont lieu actuellement, mais sur la principale manifestation qui avait lieu en 2012. À l'époque, on parlait d'une affluence record, hein, 2 millions de personnes selon les organisateurs, 1,5 million selon la police. Et vous savez combien le logiciel on a compté réellement?
La vérité était entre les deux, non?
Non,
elle était plus basse encore.
500 000 personnes, 4 fois moins que les estimations. Donc, ça montre le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les estimations qui sont faites soit par la police, soit par les organisateurs, et ce que peut compter ce logiciel. Alors là où ça va, c'est très intéressant, c'est que ça ne va pas être utilisé uniquement pour les manifestations, c'est aussi utilisé pour tous les mouvements de foule. Par exemple, ça va être utilisé au Qatar pour les Jeux
la Coupe du Monde
de football, parce que quand il faut planifier des secours, on a besoin de savoir d'estimer à peu près la foule, le nombre de personnes qu'il y a. Donc l'affluence aux abords des stades va être surveillée par des hélicoptères, des drones, je ne sais quel appareil, ou même des caméras qui sont à distance. On saura exactement le nombre de personnes qui sont présentes sur un lieu, et ça va permettre comme ça de dimensionner les secours. Donc Pour les journalistes, ça va être plus intéressant, pour les organisateurs également, mais aussi pour les secours.
Mais bah, aujourd'hui, comment on calcule ? C'est vrai que ça paraît compliqué.
Il y a plusieurs méthodes, et la première méthode, c'est de doigt mouillé, hein, tout simplement. On estime, tiens, il y a 200 000 personnes.
Mais c'est pas comme ça qu'ils font quand même.
Si, ça se fait.
Ça
d'autres,
ça, ouais.
D'autres fonds utilisent les personnes qui se sont inscrites à la manifestation. Donc, ils regardent, tiens, il y a tant de personnes qui sont inscrites, donc ça fera le nombre de présents.
On compte en mètres carrés aussi. Hein.
Voilà. Et sinon, les journalistes ont commencé à dire, bon, il y en a marre un peu de cette course. Donc, les journalistes, plusieurs chaînes de télé et plusieurs journaux se sont mis d'accord pour un système de comptage. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur une zone 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, on compte le nombre de personnes, et puis après, on extrapole sur toute la distance de la manifestation. Donc, évidemment, ça produit des erreurs avec des rapports de 1 à 2 ou de 3 à 4. C'est pour ça que c'est intéressant que cette estimation soit faite par des indépendants, parce que quand on demande de compter et que les gens sont un peu partisans, et bien évidemment, on ajuste parfois mal. Et là, on pourra le faire, enfin, on va pouvoir compter précisément tête par tête, de façon même automatique. Hein. C'est-à-dire que si c'est un hélicoptère qui passe, il pourra, en analysant l'image, dire « il y a tant de personnes ».
Quand Bilal Hassani fera le Stade de France, dans peu de temps, on saura exactement si vous avez 80 000 personnes ou 79 000 personnes.
Sauf qu'eux, ils auront payé, donc la billetterie le saura exactement.
Exactement.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Et il est tout juste 16h50, on se replonge comme chaque week-end dans les moments marquants de l'émission et finit les fêtes. Cette semaine, Mathieu Noël est revenu en compagnie d'un autre Mathieu. Mathieu Béliard, le présentateur de la matinale d'Europe 1, 6h-9h, et c'était donc jeudi.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage aujourd'hui, c'est la rencontre de deux rires légendaires. Celui de notre invité, Mathieu Béliard, présentateur de la matinale d'Europe 1. Et celui de notre expert gastronomique, Olivier Pouls, autre individu dont le rire trahit lui aussi un goût prononcé pour la bonne chair et un total désintérêt pour le véganisme. Un bon vivant qui pourtant aujourd'hui va prendre sur lui pour nous proposer une recette détox d'après-fête. Un sujet de commande, hein, je précise tout de suite. Bonjour et bonne année Olivier Pouls.
Bonne année les amis, bonjour les Mathieu au pluriel, bonjour toute l'équipe. Et oui, c'est vrai que c'est une commande, parce que je vous avoue que c'est pas certain que je vais la manger moi-même aujourd'hui. Je vais quand même vous donner la recette de cette soupe détox. Et pour cette soupe détox, pas besoin d'aller puiser dans des produits improbables venus de je ne sais où, ou des plantes que Mathieu aurait pu nous sélectionner dans la forêt. On va simplement puiser dans le répertoire non seulement de la gastronomie, de la cuisine française traditionnelle, mais aussi de la cinématographie française, avec un petit indice. Écoutez ça.
La soupe au chou.
Gagné, ma chère Eva. Eh bien oui, le chou, figurez-vous, que c'est un produit parfait pour se détoxer.
Ah oui, mais pas
alors,
attends,
Mathieu Béliard, spécialiste de toutes ces plantes et de tous ces légumes, ça, savez-vous à quelle famille appartient le chou d'ailleurs ?
Les brassicacées.
Voilà, bravo. Les brassicacées.
Ah, il s'est pas foutu de notre gueule, le Béliard.
Avant, quand on disait les crucifères avant. Non mais vous, quand vous étiez petit, vous n'avez pas entendu parler des crucifères ?
Mais moi, j'ai jamais entendu parler de tout non. Ça.
Oui,
moi,
je mangeais ça a changé de nom et ça s'appelle les brassicacées.
Moi, je mangeais des raviolis.
Les brassicas, c'est le chou en latin.
Ah oui, brassica dans Astérix, il y a brassica à un moment.
Pardon, Olivier.
On est dans les brassica. Oui, pardon, Olivier, c'est pas qu'on s'en fout hein, de votre chronique, mais c'est à dire qu'on digresse beaucoup avec Mathieu parce qu'on a un bon feeling. Donc en fait, on vous oublie. Excusez-nous. Continuez.
Et je sens que vous allez digresser encore parce que vous allez évidemment me dire, la soupe au chou, ok, c'est peut-être sympa, mais enfin, si on est tout seul, ça passe encore, mais si on est 6 à en manger. La maison risque assez rapidement de se transformer en lieu peu fréquentable. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que le chou contient une substance qui s'appelle la raffinose. Et la raffinose est une substance qui est hautement fermenticide dans notre estomac et qui provoque effectivement les flatulences de Louis de Funès dans le film. Mais il y a une petite astuce pour justement enlever cette raffinose et rendre le chou plus digeste et moins fermenticide. L'idée, c'est tout simplement de le blanchir avant de le mettre dans votre soupe. C'est-à-dire que vous allez prendre votre chou, vous allez enlever les feuilles les plus vertes, les plus abîmées. Vous allez vraiment garder le cœur du chou que vous allez couper en lanières. Et il faut donc le blanchir dans une eau bouillante pendant 2 minutes. Jeter bien évidemment cette eau qui aura récupéré une bonne partie de cette raffinose. Et vous aurez donc un chou prêt à l'emploi qui sera beaucoup plus digeste et qui va surtout vous aider à bien vous détoxer parce que c'est une plante qui est extrêmement bonne. C'est un légume qui est extrêmement bon pour votre santé. Il contient énormément de fibres, de vitamines et vraiment il va aider votre organisme à se purifier en quelque sorte. Donc l'idée, c'est soit d'utiliser un bouillon que vous auriez pu faire avec des restes de volaille de Noël ou Nouvel An, parce que je vous rappelle, et ce sera une des bonnes résolutions encore de cette année, qu'on ne jette rien en cuisine, on fait la chasse au gaspille, donc la carcasse de la volaille, on l'utilise.
On peut l'utiliser une fois qu'elle a été cuite.
Absolument.
La carcasse de la volaille, ou c'est que quand elle est crue?
Non, on peut utiliser sa carcasse de volaille quand elle a été cuite, on aura évidemment prélevé toute la viande dessus, on l'aura mise tout simplement dans un grand volume d'eau avec quelques restes de légumes, et on laisse cuire ça pendant 2-3 heures, le temps de concentrer le bouillon, on le filtre, on le dégraisse, et on a une excellente base pour faire une soupe aux choux. Après, c'est très simple, parce que évidemment, comme vous m'avez demandé une soupe aux choux détoxante, on va éviter de mettre
de
lard dedans.
Je vous ai rien demandé,
moi. Et donc, on va faire une soupe aux choux et aux légumes, avec évidemment ce qu'on peut trouver comme légumes de saison, quelques carottes, un navet, du poireau, de l'oignon, et on va mettre nos lanières de choux dans ce bouillon avec les légumes, une cuisson là aussi 45-50 minutes. Il ne faut pas avoir peur de bien concentrer les arômes. On peut bien évidemment l'assaisonner, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et la petite astuce aussi pour rendre tout ça encore plus digeste, c'est de rajouter un tout petit peu de cumin.
Et oui.
Parce que le cumin, lui aussi, a la faculté de vous aider à digérer et d'éliminer en quelque sorte le côté désagréable du chou.
Comme beaucoup de plantes de la famille des apiacées, comme le cumin, l'anis ou encore d'autres ombellifères, comme on disait dans le temps, qui justement ont ces vertus digestives, fenouil.
Le professeur Béliard confirme vos propos, Olivier Pouls. Et maintenant, il a très très faim. Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour cette recette. On peut le dire, contre nature pour vous.
Oui, et puis je vous rassure que demain, on fera la galette des rois. Donc,
on prend les. Bah là, on sera bien détoxifié. Oui, Eva, vous vouliez ajouter quelque chose.
Vous l'avez juste appelé Olivier Pouls.
Olivier Pouls, oui, mais pourquoi pas. Mais ça lui va si bien.
Bouillon de poule.
Olivier Bouillon de poule, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et l'équipe est sauvage se poursuit bien sûr juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et Anne Le Gall qui nous parlera des freegans. Vous savez, ces gens qui mangent gratuitement. Et les déchétariens, mouvement militant né aux États-Unis il y a 20 ans, et ils considèrent les poubelles et les fins de marché comme de véritables cornes d'abondance. Mais avant les infos, Louis Chédid sur Europe 1, dont le nouvel album sortira le 28 février prochain.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et oui, ce n'est pas une heure, mais 2 heures de bonne humeur avec Mathieu Noël, même le week-end, pour se divertir et s'informer. Et l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition, vous le savez, avec les journalistes d'Europe 1. Chaque après-midi, ils s'affrontent au service de notre culture générale avec leurs meilleurs sujets et en présence d'un invité. Alors si vous venez nous rejoindre, je rappelle que durant les fêtes, nous vous avons offert une compilation de ces 4 derniers mois et Mathieu Noël est revenu dès le 2 janvier avec Mathieu Béliard comme invité. Parmi les autres invités de cette semaine, que vous allez pouvoir retrouver à nouveau Bilal Hassani, Patrice Lecomte ou encore Patrick Timsit.
Notre spécialiste environnement, la Bernadette Soubirous du bilan carbone, elle n'est qu'amour, respect de la nature et de son prochain. Jetée dans cette compétition contre des concurrents prêts à tout, sans éthique, comme Angèle Châtelier, notre chroniqueuse musique, qui n'a pas hésité l'autre jour à tomber la chemise pour séduire l'invité. Elle essaye de suivre, mais on sent bien quelle force sa nature, Anne.
Il fait chaud, hein?
Bah grave, je me déshabille, pardonnez-moi.
Elle essaie de séduire l'invité, elle se déshabille. Bon bah je vais remonter mes manches.
Ah c'est super Anne. On vous connaissait les véganes, Anne, véganes.
Oui.
Mais là vous nous faites découvrir les freeganes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, les freeganes, ça va peut-être vous rappeler un rôle, justement, on parlait de la crise de Colin Serrault, ça va peut-être vous rappeler un peu le rôle de Michou, ce SDF attachant, un peu envahissant, justement, qui était allé chercher les restes du repas jetés par les enfants du député et dans les poubelles. Alors là, je vous propose une rencontre avec une jeune femme. Michou était dans la nécessité, il le faisait vraiment par besoin. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Eugénie. Eugénie, elle récupère aussi de la nourriture invendue à la fin des marchés, mais à la différence de Michou, elle n'est pas du tout dans la nécessité, c'est par militantisme. Elle a 24 ans, elle est diplômée de Sciences Po et d'une école de design. Elle a un travail, un salaire, aucun problème d'argent.
Une bourgeoise, quoi.
Et pourtant, quand elle va au marché le dimanche à Paris, elle y est encore allée hier, c'est pour récupérer des fruits et légumes que l'on a jetés.
Les vendeurs vont laisser, après leurs étals, en train de remballer, ils vont tout laisser dans la rue, dans les cagettes, avant que les poubelles passent. Et là, en fait, moi, je récolte tous les fruits et les légumes. S'il faut, je coupe si c'est un peu moisi. Je récupère, en général, c'est totalement comestible. Et donc, en fait, je mange uniquement des fruits et légumes invendus. Je n'achète jamais de fruits et légumes. je suis pas la seule à faire ça, il y a plein de gens, il y a plein de types de gens. Il y a des mamans, il y a des personnes âgées, il y a des personnes isolées, il y a des étudiants, il y a plein de gens. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment une vie après le marché aussi.
Donc, c'est vraiment pas une démarche isolée, c'est ça qui est important de souligner.
Voilà. Au-delà des personnes en situation de précarité, effectivement, Eugénie fait partie de ces consommateurs qui ont choisi de se nourrir avec des invendus pour dénoncer le gaspillage. Elle fait donc partie de ce qu'on appelle les friganes, donc ceux qui mangent gratuit, ou les déchetariens. C'est un mouvement militant qui est né aux États-Unis il y a 20 ans. Et il y a certains restaurants d'ailleurs qui sont nés sur ce concept, qui ne cuisinent que des invendus. Il y a le Refettorio à Paris, il y a le Frigan Pony, donc on ne cuisine que des invendus. Et c'est un mouvement qui est resté d'actualité parce que l'Union européenne veut réduire d'un tiers le gaspillage alimentaire d'ici 10 ans. Et ce mode de consommation, donc très militant, très engagé, a quand même le mérite de faire réfléchir à ce que l'on jette, puisque je rappelle quelques chiffres. Un tiers de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée. Aux États-Unis, c'est même la moitié de la nourriture produite qui n'est jamais consommée. Chaque Français jette chaque année 20 kilos de nourriture à la poubelle, dont 7 kilos encore emballés. Et ce sont effectivement les fruits et légumes qui sont les plus gaspillés.
Anne, votre chronique est édifiante, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais Nicolas Carreau fait des mous bizarres. On a l'impression qu'il n'est pas d'accord.
Non, mais juste, si on se met tous à manger les invendus, bah on en vend moins, donc il y a plus d'invendus, on s'en sort pas.
Votre perfidie, c'est tout simplement écœurant ce que vous dites,
on
Nicolas
Carreau.
On peut
aussi produire justement, produire la bonne quantité, okay. Ça peut être pas mal.
Ça les rend végétariens de toute façon, parce que récupérer les invendus en poisson et en viande, là,
c'est
plus compliqué.
Oui.
Là, absolument. Donc,
là, enlever le moisi, c'est
pas un choix. En fait. Ils sont végétariens, obligatoirement végétariens. Donc. Et juste pour parler de la crise deux secondes, c'est vrai que Colline Serrault était carrément avant-gardiste. Elle était visionnaire.
C'est
un film qui était qui est 91, je crois, et pour l'avoir revu récemment parce que je le présentais comme ça, et là il y a cette scène et Michou mange
et
l'accessoiriste avait été extrêmement gentil parce qu'il me dégraissait quand même la main en disant tu manges mais de ce côté-là, hein, je t'ai enlevé un peu de graisse et puis vraiment j'ai mis, il y avait des toasts au foie gras, je t'ai mis un petit pâté light parce que vous passez la nuit à bouffer, hein. Surtout avec Colline Serrault, c'est 40 prises par grosseur. Je veux vous dire que c'est des séquences, là, c'est des scènes terribles. Et Géraldine Nakache, pour dire, et son frère se faisait régulièrement les dialogues de... Elle connaît les dialogues de la crise.
Sur le tournage de votre film.
Mais quand ils étaient mômes, il paraît qu'ils saoulaient leurs parents avec ce film. Je peux en parler. Moi, j'étais juste comédien. C'est Colline Serrault, vraiment visionnaire, avant-gardiste, vraiment un vrai regard.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec bien sûr Mathieu Noël, sa grande complice Eva Rock, les journalistes et les invités. Retour sur les moments marquants de cette équipée sauvage. Le 23 octobre dernier, Mathieu Noël recevait Bilal Hassani.
C'est donc le jeune chanteur Bilal Hassani qui nous accompagne cet après-midi pour la sortie de son livre Singulier chez Plon. Si vous possédez une télévision ou un ordinateur relié au Wi-Fi, vous connaissez fatalement ce jeune homme au look androgyne, sa crinière blonde platine sur scène. Vous connaissez aussi ce titre. Laisse-moi m'envoler, I'm not a rich but I'm shining bright. Mais si on veut vous connaître vraiment, Bilal Hassani, il faut remonter à ça. Ce choc, vous avez 5 ans, chez vos grands-parents au Maroc, vous découvrez à la télévision le clip de Thriller de Michael Jackson.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Je suis chez mes grands-parents et c'est mon père qui me montre le clip, donc à moi, mes cousins, mon grand frère. Et on regarde le clip de Thriller tous ensemble. La réaction attendue de moi, c'est le... mon père voulait me faire peur, il s'est dit super et tout, c'est le moment où on va faire flipper tous les petits, ils vont aller se coucher et on va faire des petits cauchemars. Et donc tous mes cousins sont en train de pleurer vraiment parce qu'ils ont très très peur et moi je suis le seul devant, donc devant l'écran d'ordinateur et je faisais oh, waouh. Et à ce moment là en fait j'étais concentré sur donc ce que Michael faisait en termes genre de chorégraphie et j'avais envie d'apprendre la danse en fait qu'il faisait. tous les jours, je re-regardais le clip et ça, je m'en foutais que ce soit un loup-garou, il pouvait faire le zombie, tout ce qu'il veut. Moi, j'étais là, je voulais savoir comment il faisait cette Corée. Ouais.
On va revenir sur ce livre qui est aussi l'histoire d'un combat différent. Vous l'avez toujours été et surtout, on vous l'a fait sentir, surtout tellement la différence. Vous dites pas assez garçon, trop fille. On me le dit, on me le fait sentir depuis que je suis né. Ce look qu'on vous connaît, que vous arborez sur scène, ça n'a rien de marketing. C'est vous, en fait, depuis toujours.
Ah, c'est complètement moi, ouais. En fait, je mets des serviettes sur ma tête depuis que je suis tout petit. J'aime trop l'idée d'avoir des cheveux longs. Et donc, quand j'ai découvert l'option perruque, je me suis dit, c'est super. Et ça me permet d'avoir ce mouvement, en fait, capillaire trop cool que j'admire chez mes idoles comme Beyoncé et tout, et d'avoir moi aussi.
Quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le récit, c'est que c'est une leçon magistrale de la connerie humaine. Je m'explique. Si on ne vous accepte pas, c'est finalement pas parce que vous êtes gay, pas parce que vous êtes efféminé, pas parce que vous êtes transgenre aux yeux de certains, c'est parce que précisément vous ne rentrez dans aucune de ces catégories. Oui. Vous êtes la preuve vivante que les hommes ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, juste en fait.
Oui, ils ont besoin de me rentrer dans quelque chose, dans une des cases, et c'est quelque chose d'assez frustrant, même au début, quand j'ai été exposé au tout début avec l'Eurovision. C'était très compliqué pour eux de mettre un titre, un gros titre avec Bilal Hassani, et donc c'est un coup androgyne, des fois c'est homosexuel, des fois c'était une personne trans alors que pas du tout et tout. Donc il y a eu plein de choses, et moi à chaque fois que je disais je suis un garçon, oui j'aime les garçons, mais c'est pas non plus genre mon actu, hein, donc et je porte des perruques, c'est perturbant, ouais.
Et vous avez ce terme, je suis incasable, je suis Rubik's Cubesque.
Exactement.
J'aime beaucoup ce terme. C'est quoi votre rêve aujourd'hui, maintenant que vous avez fait l'Eurovision, l'Olympia, tout ça dans un espace temporel très réduit, quelle est la prochaine étape? Étape, c'est peut-être de durer, c'est ça le plus dur dans ce métier aujourd'hui avec l'offre musicale.
Je suis pas en train de réfléchir à la durée, je suis en train de réfléchir à trouver mon équilibre dans ce monde qui est un petit peu ça m'a un petit peu tapé dessus, ça m'est tombé dessus très vite malgré le fait que je prépare ça depuis des années et des années et des années. Quand ça arrive de manière aussi intense très rapidement, c'est on a besoin de s'ajuster, de s'adapter, donc c'était un petit peu compliqué pour moi le tourbillon, et donc je veux m'adapter, me sentir bien dans mon élément, et je veux surtout continuer à m'amuser, à faire ce que je fais. Moi, je fais pas uniquement de la musique pour avoir de la reconnaissance et pour que genre trois personnes disent « Ah, mais si, lui, il est connu !» Le but, c'est que je m'éclate quand je crée de la musique, et s'il y en a 3 ou 3000 ou 30 000 ou 300 000 qui m'écoutent, c'est pas le chiffre qui m'importe, c'est la connexion que je peux avoir avec ces personnes-là qui comptent vraiment.
Il y a quelques semaines, on a découvert un clip extrêmement touchant de la chanson « Je danse encore » dédiée, oui, à votre maman Amina. Elle a été un soutien, votre maman, mais vraiment un soutien sans faille depuis vos débuts. C'est elle qui vous a compris dès le départ. Elle a toujours été un soutien pour vous.
Elle a toujours été derrière moi. Elle m'a surtout tout le temps suivi dans mes folles aventures et mes projets un peu fous, sans à aucun moment me dire de baisser les bras, alors qu'il y a plein de fois où quand même, moi j'ai commencé vraiment à essayer de rentrer dans ce monde de la musique, à enregistrer des chansons, etc. très jeune. J'ai commencé avec une formation très classique au conservatoire, etc. Mais à partir de mes 11-12 ans, j'ai commencé à toquer aux portes des maisons de disques avec ma mère, et donc maman s'est battue pour moi. Elle s'était inscrite à une salle de sport juste en face d'une grosse maison de disques, et elle laissait des démos tous les jours dans la boîte aux lettres et tout. Et elle s'est vraiment battue pour que ça fonctionne, parce qu'elle voyait à quel point c'était quelque chose qui comptait pour moi, et nous on n'avait pas peut-être pas les moyens d'enregistrer, de louer juste un studio d'enregistrement et des trucs comme ça, et donc maintenant quand elle voit tout ce qu'on peut faire, elle est très contente.
À vous entendre, il n'y avait pas d'alternative dans votre vie, c'était la musique ou rien, il n'y avait pas une autre voie, il n'y avait pas un autre métier, une autre...
J'avais pas de plan B, non.
Il n'y avait pas de plan B.
Non, il n'y avait aucun plan B, j'ai toujours voulu faire que ça, et donc quand c'est ce que j'écrivais dans les petits formulaires qu'on fait à la rentrée des classes et tout, j'écrivais chanteur, et c'est tout. Et en fait, c'est au moment où on réalise son plan A qu'on découvre son plan B. Et donc, depuis que j'ai donc sorti mon premier album, etc., j'ai trouvé le truc que je pourrais faire sur le côté et tout.
Mais c'est quoi, c'est secret?
Je vais pas le dire. Non, je peux en parler. Mais c'est toujours en rapport avec la musique, mais j'aimerais bien reprendre les études. Et étudier à la Berklee School of Music à Boston.
Prestigieuse école musicale.
C'est très cher.
Oui.
Donc il faut que je vende beaucoup de disques avant de pouvoir faire cette école.
Et ce sera
mon plan B, voilà.
En juin dernier, vous avez été élue personnalité de l'année LGBTI, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe, lors de la cérémonie des Outdoors. Néanmoins, vous restez complètement lucide là-dessus. Il y a pas mal de médias qui vous reçoivent en se disant « C'est bon, on accueille un homo qui chante avec une perruque, on a fait notre boulot, tout est réglé avec le problème de l'homophobie. » Vous dites ça, c'est assez malin. Vous savez bien qu'il faudra beaucoup plus pour changer les mentalités.
C'est vrai, à partir du moment où on est obligé d'avoir une cérémonie qui récompense exclusivement les personnes de la communauté LGBTQI, ça rend la chose un petit peu niche directement et ça nous met encore dans cette case un peu genre extraterrestrielle, genre ils sont bizarres dans leur coin. Et aussi, moi j'essaye toujours de faire très attention à pas rentrer dans le jeu trop du médiatique du « regardez, on l'a lui, il est très bien, tout va bien, la tolérance est à son comble. » C'est un homosexuel avec une perruque qui a représenté la France à l'Eurovision. Tout va bien dans le monde, c'est faux. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui... On devrait encore pouvoir évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, j'espère, prochainement.
Oui.
C'est important.
Vous estimez que vous vous êtes fait virer de votre collège à cause de votre homosexualité ?
Oui. Oui, exactement.
Le prétexte officiel, c'était que vous étiez trop bavard, mais pour vous, c'est pas ça.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une relation sexuelle avec un garçon qui était dans la même classe que moi. Ça s'est répandu comme une petite rumeur dans l'établissement. Mais c'était une rumeur, donc rien ne pouvait prouver que ça s'était passé ou non. Et donc, on avait joué un petit peu sur le... En gros, lui, il avait été très contrarié quand il avait appris que ça se savait. Donc, il m'avait dit, t'en parles pas, et tout, tu dis que c'est faux, et tout. Mais malgré tout, donc les profs, et tout, ont commencé à en entendre parler. Et donc, c'était devenu bizarre, mes relations avec mes professeurs, tout simplement. C'était très tendu, en fait. Et un jour, on est venu me chercher en cours, et on m'a dit, t'as conseil de discipline après-demain. J'ai fait, hein, pourquoi ? J'avais 17 de moyenne, j'étais un élève assez modèle, donc je comprenais pas ce qui se passait. Et on m'a renvoyé c'était quoi ? J'étais trop distrait et je déconcentrais mes camarades de classe.
Sexuellement.
Avec ma présence.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Et il est 17h21, 2h, oui, pour se détendre et apprendre avec Mathieu Noël et les journalistes compétiteurs d'Europe 1. Le 30 septembre dernier, en présence de Patrick Timsit, Nicolas Carreau avait choisi de nous parler des inédits des grands écrivains.
Ce que vous allez entendre est un fait rarissime. D'habitude, ici, c'est un concours sérieux.
Donc, Nicolas Carreau recevra mes trois.
Merci.
Je ne mets pas en cause votre choix, Bernard Werber, mais je me permets de signaler que l'attaché de presse de Bernard Werber n'est autre que la femme de Nicolas Carreau.
Qu'est-ce que vous avez contre la corruption ?
Je m'en fous, je prends les trois points quand même.
Nicolas Carreau, vous êtes notre expert littérature. Vous avez actuellement 14 points à votre compteur, dont 11 valides et 3 extrêmement discutables, on vient de l'entendre, que la FIFA peut vous retirer à tout moment. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, sachant que l'attaché de presse de Patrick Timsit n'est pas votre femme, et espérons pas votre maîtresse non plus, enfin jusqu'à nouvel ordre, non.
Nicolas. Beaucoup discuté quand même.
Oui, ça. On embrasse votre femme, Nicolas. Vous nous parlez des inédits des grands écrivains.
Ben oui, parce qu'il y a 2 semaines, on a eu l'inédit de Françoise Sagan, Les Quatre Coins du Cœur. En fait, on entendait parler d'un livre mystère depuis le mois de juin. Personne ne savait ce que c'était. On savait que c'était chez Plon, que c'était un romancier, que ça serait tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. On avait enquêté un peu à l'époque. Moi, j'avais pensé à Jean d'Ormesson, mais non. Sa fille m'avait dit que, elle m'avait juré que non, c'était pas lui. Et finalement, donc, c'est Françoise Sagan. Mais un inédit de Sagan, vraiment, on ne pouvait pas s'en douter parce que rien n'avait filtré jamais. En fait, c'est un texte inachevé. Moi, j'ai adoré. Mais il y a un gros débat sur ce texte parce que, si vous voulez, c'est le fils de Françoise Sagan qui a retrouvé ce manuscrit dans tous les papiers de Françoise Sagan. Mais c'était des photocopies. Il y avait 2 morceaux. Il croyait que c'était 2 textes. Finalement, en les recollant, il s'est aperçu que c'était un seul grand roman. Mais il y avait des redites, des trucs comme ça. Il l'avait proposé à un grand éditeur qui est Jean-Marc Roberts il y a plusieurs années, qui lui avait dit, écoute, non, faut pas faire ça à ta mère. C'est pas bien. Ça lui rendra pas hommage. Et puis, le fils a retravaillé
Denis
Westhoff. Mais non, pas vraiment. c'est pas sûr justement. Il a retravaillé, il a enlevé les redites, il a nettoyé un peu tout en gardant évidemment que le texte de sa mère et il l'a fait éditer chez Plon. Et moi je trouve ça superbe, il y a des saillies magnifiques qu'on on retrouve vraiment Françoise Sagan, mais il y en a d'autres qui disent attention, c'est pas
un film. Il y a eu un livre aussi dans cette histoire-là, non, d'Albert Camus. Le premier homme, où c'est la fille d'Albert Camus qui a rassemblé...
Il était inachevé, le texte.
C'est
inachevé, en fait.
Mais c'est inachevé.
Il ne faut surtout pas le lire comme un nouveau grand roman de Sagan, évidemment
pas. Pardonnez ma candeur, mais quand vous dites c'est inachevé, c'est-à-dire que ça s'arrête page 122, ou ça veut dire que c'est inachevé au sens ça n'a pas été relu,
ça n'a pas été raboté,
il y a quand même un début, un milieu, une fin.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas abouti.
On sait qui a tué, quoi. Il vaut mieux ça, quoi, parce que là, un Hitchcock inachevé, c'est la merde.
Moi, je le trouve superbe, ce livre, Les Quatre Coins du Cœur, ça fait plaisir de le retrouver. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les inédits. Et c'est pas juste des histoires de sous. Moi, je suis désolé, j'aurais été déçu que ça ressorte pas, ce bouquin, parce que moi, je l'ai aimé. Donc, même s'il y a que moi, à la limite, qui l'aime, c'est quand même bien.
Rien que pour vous, Nicolas Carreau, c'est quand même bien, c'est vrai.
C'est très, très, très
mégalo. Je vous présente Nicolas Carreau.
Quand je dis moi, je veux dire, même s'il y a qu'un seul lecteur qui l'aime, c'est bon. La semaine prochaine, il y a 9 textes de Proust inédits qui sortent la semaine prochaine. C'est quand même incroyable. Sauf que quand même, on sait que c'est Bernard de Fallois, grand éditeur, qui a retrouvé ces textes. Et il devait être publié dans un des premiers livres de Proust, qui est Les Plaisirs et les Jours. 9 textes. Mais Proust ne les aimait pas. Il trouvait qu'ils n'étaient pas assez.
Alors là, il y a une question éthique qui se pose.
Mais du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que maintenant, grâce à ces textes, on voit comment il a appris à écrire d'une certaine manière. Quelles sont ses erreurs, comment il s'était un peu moins travaillé, un peu moins Proust, mais tout était là quand même. C'est vachement intéressant du point de vue littéraire. C'est pas juste une
c'est
histoire
intéressant
d'argent.
Pour nous, mais lui, si ça lui fait
histoire
du tort.
C'est une histoire d'argent, mais honnêtement. Mais j'ai toujours refusé parce qu'on me proposait d'écrire. J'ai trop de respect, je vais pas. Hein. Mais je le ferais peut-être pour qu'il soit publié après ma mort pour mes héritiers.
Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça.
Ça serait pas con. Ah ouais. Genre, je balance tout, je m'en fous, je suis mort. Et vraiment savoir ce que je pense et ce que j'ai traversé pendant ma vie. Non, mais j'en parlais, je vous jure, il y a quelques jours à la vie, en disant, tiens, oui, et pourquoi pas? Il me dit, c'est un peu cynique quand même. Je dis, non, pas du tout, comme ça, au moins, et tous les droits reversés à mes enfants, qui après le reverseront à une association caritative.
Bien sûr.
Teamseed.org, qui est toujours ma famille, mais ça reste familial, mais ça reste quand même sur comme ça, des gestes, comme ça, spontanés et généreux.
On a tous les éditeurs de Paris qui vont nous appeler, là. C'est quand même une belle proposition.
Nicolas. Le plus grand mythe, c'est Salinger, l'auteur de L'Attrape-cœur. Il avait écrit donc ce best-seller international et après, il s'est enfermé dans sa maison. On ne l'a plus jamais revu, plus jamais entendu et on ne savait pas s'il écrivait ou pas. Mais la légende voulait qu'il écrivait tous les jours et qu'il mettait ses textes dans une grande malle qu'on pourrait découvrir après sa mort. En 2010, il est mort, il n'y avait rien. Son fils a dit, je ne vous dis pas pour l'instant, on va voir, peut-être, peut-être pas. Et là, au printemps dernier, il a dit... Voilà, j'ai récupéré. Effectivement, il écrivait tout le temps. Je suis en train de travailler dessus pour publier tous les textes de Salinger.
Et si c'est lui qui a écrit.
Si c'est lui qui a écrit.
Non, c'est rien.
Ça y est, j'ai fini d'écrire ce qu'avait écrit mon père. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai retrouvé les écrits de mon père. Ils étaient cachés, mais sous mon lit.
C'est
la femme de ménage, figurez-vous, qui un an après, en faisant le ménage, a retrouvé tous les écrits de mon père que je vous. Je les ai recopiés, moi. C'est pour ça que c'est mon écriture, mais c'est mon père, c'est pas moi.
Non, mais Dumas, par exemple, on sait qu'il y en aura d'autres des inédits. Moi, j'ai visité l'endroit où tous les manuscrits de Dumas sont conservés et il sort régulièrement des inédits d'Alexandre Dumas. Le dernier grand inédit, c'est Le Chevalier de Saint-Hermine, qui était la fin d'un cycle. Dumas, il fonctionne par cycle. Donc, il y avait 3 bouquins, c'est le cycle révolutionnaire, avec Les Bleus et les Blancs, Les Compagnons de Jéhu. Il manquait la fin. On savait que ça s'appelait Le Chevalier de Saint-Hermine, mais on ne l'avait jamais lu. Et il est sorti il y a quelques années, sorti par le grand spécialiste de Dumas, Claude Chope, qui m'a fait visiter cette caverne. Où il y a encore plein de Dumas inédits.
Très bon sujet, quand même. Parce que c'est vrai que c'est intéressant.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec toujours Mathieu Noël, jusqu'à 18h, Eva Rock, sa grande complice et toute l'équipe des journalistes compétiteurs. Jeudi, c'était le retour de Mathieu Noël et le premier invité de l'année, on le connaît bien, Mathieu Béliard.
C'est donc un collègue qui nous accompagne cet après-midi, journaliste exigeant, je dirais même ambitieux, puisqu'il y a de ça quelques jours, lorsque j'annonçais votre venue, vous me disiez Mathieu...
Je prends un engagement, je vais vous retourner votre équipée sauvage.
Eh bien,
c'est moi le Mario.
Retournez-nous notre émission.
Là, c'est sûr que je fais un peu moins le malin maintenant.
Mais on est ravis de vous recevoir. Les gens doivent le sentir le matin à votre écoute. Mais il peut toujours y avoir un doute. La personne qu'on écoute est-elle aussi sympa dans la vie qu'au micro? Dans votre cas, avec Eva, on est en mesure de lever le doute.
Ah bon?
Oh, on avait répété, on avait dit qu'il était vachement sympa dans la vie, tu te souviens?
Ah oui, c'est vrai, il est vachement sympa. Oui,
c'est ça qu'on voulait
c'est vrai,
dire.
C'est vrai.
C'est ça qu'on voulait dire.
Non, mais c'est vrai en plus.
Non, ce qui est étonnant, c'est votre humilité.
Ah ouais.
C'est vraiment très étonnant cette humilité. Vous prenez la matinale d'Europe 1, vous auriez pu prendre un peu la grosse tête.
Mais personne ne me connaît.
Et alors
en vrai, ça va venir.
On va
grâce à la matinale d'Europe 1.
C'est la question. Est-ce que quand tout le monde vous connaîtra, est-ce que là vous serez infect?
Ah oui. Non, mais ça c'est fini. Vous m'inviterez plus le 2 janvier. Moi, je le 15 avril.
Alors, avant de reprendre la matinale, vous êtes arrivé sur Europe 1 en 2018 pour la tranche du 17-20, et là, vous vous êtes dit, il y a énormément de boulot, mais je vais pouvoir passer des nuits complètes.
C'était ça.
Pas de bol. Ensuite, on vous propose la matinale. Alors, évidemment, il faut expliquer à nos auditeurs qu'en radio, la matinale, c'est le prime time total, donc c'est la plus belle tranche qu'on peut avoir si on est journaliste. Mais est-ce que vous, à un moment, je vais le dire, vous avez 3 enfants, vous avez une vie de famille, tout ça, est-ce qu'à un moment, vous avez hésité quand vous avez fait la proposition, ou tout de suite, vous avez dit banco?
J'en ai parlé à ma femme.
Quelle a été sa réaction à votre femme?
C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait peut-être arrêter de changer d'horaire tous les ans.
Oui, ça, déjà. C'est bien, je connais ce reproche aussi.
Mais ensuite, pour la vie de famille, la matinale, ça va encore. C'est plus pour la vie sociale. Les amis, on les voit plus en semaine du tout. Non, les enfants, au contraire, je peux les voir à l'heure
plus
du déjeuner, en fin d'après-midi. De temps en temps, j'arrive même à les coucher.
Mais bravo.
Quand ce ne sont pas mes enfants qui me couchent.
C'est plutôt ça. Et alors, comment vous organisez? Vous dormez combien d'heures par nuit? Il y a tout un mythe autour des matinaliers.
Pas beaucoup. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je dors 6 heures.
Naturellement, votre corps n'a pas besoin de sommeil.
6 heures, déjà avant.
6-7 heures d'un seul coup
non,
ou 6-7 heures en deux fois.
Ça, je dors surtout l'après-midi d'ordinaire.
Ouais.
Je me réveille avec vous.
Bravo, merci.
Mais, et puis 2 heures le soir.
2 heures et demie
le soir.
Mais vous savez que ce n'est pas bon pour la santé de
non,
dormir
sais,
en fractionné.
Je sais, on perd des années de vie à chaque matinale.
Chaque matinale, une année de vie.
D'ailleurs, je vais mourir il y a 10 ans.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Si je devais prendre un exemple de journaliste brillant autour de cette table, je prendrais au hasard, moi. En effet, comme notre invité Mathieu Béliard, présentateur de la matinale d'Europe 1, je sais que la première question d'une interview est absolument décisive. C'est elle qui donne le tempo. Comme lui, je prépare avec beaucoup de minutie cette première question. Bon, peut-être pas avec autant de minutie que lui.
Alors d'abord, très simplement, envoyez votre Joconde Punk Mona dans l'espace.
Pourquoi? C'est beaucoup bossé cette première question.
Oui, beaucoup de minutie, mais moins quand même que Mathieu Béliard. C'est pourquoi ma première question est la suivante. Mathieu Béliard, à quelle heure vous levez-vous? Là, je ne peux pas me planter. Avec ça, normalement, c'est bon.
Minuit et demi.
Non, mais vous ne vous levez pas à minuit et demi.
Si, je me lève à minuit et demi.
Mais c'est pas
le
se lever.
Lundi.
C'est
minuit 45 le vendredi. Mais
minuit c'est ça. Et demi, mais vous vivez à l'envers.
Complètement. Et j'arrive ici vers 2h. Et je repars d'ici, ça dépend des jours là, je sais pas, je vais partir à 18h je crois.
Oh mon Dieu, je vous confirme que vous allez partir à 18h. Et encore après on a prévu un petit pot. Pour mettre une difficulté supplémentaire, car vous êtes un homme de défi, vous avez choisi d'habiter à 80 km de Paris.
Exactement.
Alors ça c'est vraiment, il faut quand même dire à nos auditeurs que quand on présente une matinale, déjà c'est compliqué même quand on habite dans l'hypercentre de Paris. Mais alors à 80 km vous vous mettez un défi.
Non, ça change tout le matin, le matin il n'y a pas photo, hein. J'ai fait des années de matinale où j'arrivais au boulot en un quart d'heure.
Oui.
Contre une heure aujourd'hui, 55 minutes, une heure.
Imaginons que le réveil,
retour,
par exemple, ne
au
sonne
retour,
pas.
Au retour, je suis gagnant.
Au retour, vous êtes gagnant?
Ah, vraiment. Moi, j'arrive. Déjà, je mets une heure à rentrer aussi au retour contre. Je fais le point trafic aussi. Contre parfois une demi-heure, 40 minutes. Il suffit qu'il y ait un accident Porte d'Orléans et vous n'arrivez pas dans l'Est parisien. Vous le savez, Mathieu.
Et le matin, c'est le matin que c'est décisif. Si jamais il y a un accident devant vous, si la route est bloquée, si la route est inondée, pas de Béliard à l'antenne, qui en fout?
Vous faites quoi, vous, à
6h? Je dors.
Vous êtes là à 6h55 le matin, donc on peut vous appeler pour dépanner au cas où.
D'accord.
Mais l'avantage, c'est que j'arrive à 2h, donc on a le temps de voir venir la galère.
Présenter une matinale qui plus est de 3h, c'est quand même un boulot énorme. Dans votre voiture, vous faites quoi? Vous écoutez déjà la radio?
Un peu, ouais.
Vous réfléchissez à ce que vous allez faire?
Mais pas seulement des choses liées à la matinale. J'écoute beaucoup de podcasts, des interviews, ce qui se fait aussi chez nos concurrents. Mais parfois, j'écoute des choses qui n'ont strictement rien à voir.
Alors, vous êtes un journaliste excellent, tout le monde peut en juger le matin sur Europe 1.
Mais
vous
avez fait de venir.
Non, mais c'est vrai. Mais vous êtes jeune encore.
Oui.
Est-ce que vous avez une crainte en étant au paquebot, aux commandes d'un paquebot qui est la matinale? Est-ce que vous avez une crainte qui pourrait être votre pire cauchemar à l'antenne? Quelque chose que vous redoutez?
Je ne sais pas si c'est la jeunesse. Alors après, si c'est un problème avec la jeunesse, ce serait un vrai problème. Je veux dire, si je faisais preuve d'immaturité sur une interview, sur... Oui, là, ça me gênerait vraiment. Non, la crainte,
c'est... Quel âge vous avez, Mathieu Béliard?
J'ai 35 ans.
C'est ouais. Petit genou.
C'est...
Ouais. Il a ouais, le toupet d'être plus jeune que moi.
De moins en moins,
quand même.
De moins en moins, mais quand même.
Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a des choses qui vous font peur quand vous attaquez la matinale ou pas du tout?
Non, pas forcément peur dans ce sens-là. Après, il y a la pression qui va avec. Et ici, tout le monde est au courant parce que c'est hyper important dans n'importe quelle radio, la matinale. Mais une fois qu'on évacue cette pression-là, non, ça va. Parce qu'on a une super équipe aussi. Hein. Moi, je prends hein, tous les compliments et avec grand plaisir, mais on est quand même une super équipe le matin et c'est quand même assez bétonné. On n'arrive pas les mains dans les poches en studio.
Bien sûr, mais il faut savoir aussi gérer une équipe. C'est aussi un métier de manager une équipe. Et à 35 ans, quand c'est votre première matinale radio, c'est pas
et
évident.
C'est une grosse équipe. Pour avoir été sur une matinale sans en être le leader par le passé, mais pour avoir fait le soir aussi sur Europe l'an dernier, on se rend compte que quand on arrive aux commandes de la matinale, c'est une très très grosse équipe en fait. À la fois le matin, c'est déjà une petite PME, vous rajoutez une équipe de journée, vous rajoutez une équipe de soirée, quand vous essayez de coordonner tout ça,
ça fait du monde.
C'est un vrai challenge. Ouais.
Beaucoup de monde avec vous, Mathieu Béliard. Vous avez travaillé pendant 10 ans auprès de Jean-Jacques Bourdin, vous êtes maintenant face à lui sur la même tranche horaire. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui? Est-ce qu'il vous envoie des petits SMS pour vous dire « là, c'est nul ».
Il n'y en a pas eu cette année. On s'est croisés l'an dernier à plusieurs reprises, mais je ne suis pas en contact très régulier avec Jean-Jacques. Mais il n'y a aucune animosité ou aucun problème avec lui par ailleurs.
Est-ce que vous savez comment il prend les imitations de Nicolas Canteloup?
Mal, très mal. Pour l'avoir vu de là-bas, il déteste ça.
Ah oui, bon, on va lui faire un petit plaisir.
Ce matin, une fois n'est pas coutume, on prend tout de suite un auditeur qui ne va pas bien, qui n'a plus d'argent. Je vois sur ma fiche qu'il est ruiné, je crois.
Non, mais oh. Je ne suis pas ruiné, à peine pas encore, non, je suis ruiné.
Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ça le fait pas marrer.
Non, parce ça le fait pas marrer et je l'ai vu de l'intérieur pour le coup. Et moi je suis persuadé qu'il faut jamais répondre à un humoriste de quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, parce qu'il aura toujours le dernier mot, il aura toujours raison. Et maintenant que je suis ici, que j'ai changé de maison, je vois le travail de Nicolas et en fait
qui est énorme.
Moi je connais Jean-Jacques par cœur. J'entends chez Nicolas ce que lui a perçu, quoi, la manière de répéter la fin d'une phrase,
oui.
La manière et dans la diction, il y a quand même des trucs qui sont
très forts,
troublants.
Et il vous tient, Nicolas Canteloup, il a trouvé le truc avec vous ou pas?
Alors j'ai découvert que je roulais les R et maintenant je m'en aperçois. Le problème c'est de dire sur Europe 1. Après oui, je parle un petit peu vite. J'ai tendance à ricaner aussi. Hein, ça m'est pas forcément reproché, mais c'est souvent souligné. J'aime bien me marrer. Je veux le dire aussi à nos auditeurs, je fais pas semblant.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Et on retrouve Mathieu Noël pour votre compilation du week-end. Retour sur l'après-midi du 28 octobre dernier. Le cinéaste Patrice Lecomte était l'invité de Mathieu Noël à l'occasion des 40 ans des Bronzés Fonds du Ski. Et il a pu découvrir tous les sujets de nos journalistes en compétition.
Bon, voilà Dutheil, on vous écoute.
Alors moi j'ai même plus le relancement, vu que je suis dans les bas-fonds du classement. Parle de ce que tu veux, amuse la...
Vous nous parlez de la désaffection de l'opinion publique anglaise envers Meghan Markle et Harry.
Voilà, effectivement. Et donc rien ne va plus chez les Sussex, c'est comme ça qu'on appelle le couple. Pourtant tout avait si bien commencé, vous vous en souvenez, hein, comme un conte de fées, un mariage magnifique, des milliards de téléspectateurs, une robe mais extraordinaire, une émotion folle, une proximité extraordinaire avec son frère William qui était son témoin de mariage, une popularité sans faille. Bon, il y avait quand même le père de Meghan Markle qui avait créé un peu la polémique, il y avait une demi-sœur un peu trop bavarde et tout. Mais bon, ça on avait mis ça de côté, la famille royale britannique avait su très bien gérer, puis ça faisait presque partie du mythe, c'était formidable, le couple était tout réjouissant, puis alors, après... extraordinaire. Le bébé qui arrive tout de suite, ça fonctionne quasiment du premier coup. Mais voilà, la machine... Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive vite derrière,
mais je voyais la conception du bébé aussi qui fonctionne du premier coup. Du coup,
bon.
Mais
voilà.
Alors, pourquoi ce revirement alors, Emmanuel, si tout était...
Eh bien, déjà, parce qu'ils ont commis plein d'erreurs et plein d'erreurs de débutants. Alors sûrement qu'ils avaient été un petit peu grisés par ce succès en se disant « Bon allez, William et Kate, ils sont démodés, c'est nous maintenant le couple de la famille, c'est nous les modernes. » Bon, je vais quand même vous donner quelques exemples sur les erreurs. Déjà, quand le petit est arrivé, ils l'ont appelé archi. Alors on peut trouver ça beau ou pas beau, mais alors personne n'avait prévu ça. Et dans la famille royale britannique, c'est un petit peu quand même codifié que la façon dont on appelle son enfant. Donc ça déjà, ça s'était pas très bien passé. Et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais la présentation de l'enfant. D'habitude, quand on est comme ça parmi les tout premiers rangs de la famille royale britannique, on sort de la maternité, généralement 8 heures quasiment après l'accouchement, on est toute pimpante et à côté le papa est tout beau. Là, non, Madame Meghan voulait le faire tranquille, chez elle, elle voulait pas être vue. Bah, peut-être que, comme Mathieu a l'air de se dire, elle a bien raison, Sauf que donc, on a eu quoi en photo? On a eu Harry qui est arrivé avec Archie dans les bras. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les Britanniques? Ils ont dit, bah, vous êtes bien gentils, mais là, la maison de laquelle tu sors, là, ton petit manoir à côté de Windsor, c'est nous qui venons d'en payer totalement la rénovation, parce que, en plus, monsieur veut pas vivre à côté de son frère du côté de Londres, donc à Kensington Palace. Donc, ils sont à côté de Windsor, ça a coûté des millions de livres de rénover tout ça. Et en plus, les Britanniques n'ont pas le droit de voir correctement la princesse et pas le droit de voir correctement. Ah, ça c'était vraiment la première bourde. On a eu aussi ces derniers mois plusieurs bévues sur la communication. C'est-à-dire qu'Harry a beaucoup critiqué notamment les tabloïds et a fait référence en plus beaucoup à sa mère en disant, là aussi je caricature un peu, mais en disant, vous voyez ce que vous avez fait à ma mère, si vous continuez comme ça avec Meghan, vous allez avoir la même chose. Donc on parle bien évidemment d'un traumatisme. Il a critiqué, dénoncé publiquement le rôle des médias jusqu'à ce fameux documentaire qui est passé la semaine dernière à la télévision britannique.
Et en quoi il pose un problème, ce documentaire? Qu'est-ce qu'il y avait comme révélation?
Il rassemble toutes les erreurs à ne pas commettre. Déjà, semble-t-il, ils n'avaient pas véritablement prévu, les services de la couronne, de dire on a fait un documentaire un petit peu larmoyant à la fin de notre tournée en Afrique du Sud. Donc déjà, vous imaginez un peu le cinéma quand la reine a pu découvrir cela. Puis surtout, là, Meghan nous dit, oh là là, ma vie est atroce, qu'est-ce que c'est dur, je suis épiée. Elle dit quand même à un moment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Elle est starlette de la télé américaine. Elle doute bien que si elle avait raté une marche pour monter aux Oscars, elle aurait fait la une de n'importe quel média. Bon, bah là, elle rate pas de marche, mais elle est juste pas douée dans sa communication. Donc, bien évidemment, elle se fait attraper. On a eu aussi...
Je sens que vous ne l'aimez pas, Emmanuel.
Je sens que c'est personnel. Non, moi, j'ai aucune critique envers elle. Mais on a aussi eu Harry qui nous dit, ah bah oui, avec mon frère, il y a des hauts et des bas, là on est plutôt dans un bas. Mais non, mais ils sont pas payés pour ça, la famille royale britannique. Ils sont payés pour quoi? Ils sont payés pour aller déposer des fleurs devant n'importe quelle circonstance, ils sont priés de sourire et ils sont priés d'incarner le pays. Et en plus, à un moment où le pays est déjà secoué par le Brexit et déjà en opposition, on n'a peut-être pas besoin d'avoir Harry et William qui se font la gueule. C'est quand même pas tout à fait, utile entre les deux. Donc ça ne se fait pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire. Mais, et en plus, ils ont rajouté à ça... On est fatigué, on est épuisé par tout ce qui est en train de nous arriver. On prend 6 semaines de pause au moment de Thanksgiving pour aller un peu se reposer, notamment aux États-Unis, hors des médias, ce qui veulent également s'occuper de leurs enfants. Enfin bon, quand vous êtes dans une société anglo-saxonne où vous n'avez pas 6 semaines de vacances à la suite, ils sont bien gentils, là aussi, de prendre un petit peu sur eux. Donc, la reine, là aussi, n'a pas été...
cet édito, c'est un édito. Enflammé, quoi. Vous savez qu'on va avoir des problèmes.
On va peut-être avoir des problèmes, mais on va attendre les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce que c'est un moment extrêmement important de réunion familiale, toujours autour de la reine. Donc là, si par exemple ils vont à la messe de Noël enfin tous ensemble,
ils seront pardonnés.
Ben non, mais déjà ça voudra dire que au minimum médiatiquement parlant, on a essayé de rabibocher le tout, et puis bah peut-être qu'à nouveau les frères, les belles-sœurs et tout le bazar, ce seront mieux entendus.
Tout le bazar. Eva Rock.
Mais 6 semaines de vacances pour se reposer.
Non, de repos.
Mais de repos de quoi? Parce que ça veut dire
qu'ils étaient fatigués de cette pression.
Ah, de pression.
Du bébé, pardon.
Non, mais à leur décharge, ils ont une grosse pression médiatique. Ils sortent d'une très très grosse tournée, notamment en Afrique du Sud. Donc ça, c'est quand même extrêmement fatigant.
Bah,
vu, ils chantent pas, mais et qu'effectivement, il y a eu quand même la naissance du petit Archie il y a quelques mois. Et puis comme Mathieu nous a parlé de la gastro de sa fille, on sait que ça fatigue, quoi.
Bah, oui, voilà. Mais sauf que eux, Mathieu, ils ont plus de nounous que vous, je crois. Ils ont des nannies.
D'accord, mais il n'empêche que quand vous avez un bébé qui arrive dans un couple, on sait que c'est fatigant.
Ils veulent s'en occuper quand même.
Bah, bien sûr, c'est plutôt tout à leur honneur. Moi, je les défends.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Noël et de son invité de jeudi, c'était Mathieu Béliard. On va découvrir à présent le sujet de l'un de nos correspondants d'Europe 1 dans le monde. On va parler de la Saint-Sylvestre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous divertir, muscler votre culture G, mais aussi vous offrir une fenêtre sur le monde, c'est tout ça à la fois. L'équipe est sauvage, avec ce soir en invité d'honneur Mathieu Béliard, le présentateur de la matinale d'Europe 1. Bonne année à tous, il est chaud comme une baraque à fête. Et justement Mathieu, on va maintenant voir du pays. Vous connaissez probablement Hélène Cole.
J'ai tapé son nom sur Google et je l'ai vu presque nu au bord d'une rivière gelée.
Oui, alors oui, c'est normal, elle est une première victime des coupes budgétaires d'Europe 1, on lui a demandé de se laver directement dans le Rhin. C'est notre correspondante en Allemagne, bonjour Hélène.
Bonjour les Mathieu.
bonne année à vous, Hélène. Sujet explosif, si j'ose dire, aujourd'hui, la tradition des pétards et des feux d'artifice de la Saint-Sylvestre.
Oui, c'est la coutume ici à minuit. Chacun fait son petit spectacle pyrotechnique devant sa porte. C'est comme ça qu'on rentre dans la nouvelle année. Alors, tant qu'on allait s'approvisionner au kiosque du coin, il y avait une sorte de contrôle social. La vente était assez limitée, déjà sur quelques jours seulement. Et puis, la taille des pétards, les quantités de poudre, tout ça, c'était réglementé. Mais depuis 10-15 ans, avec le développement de la vente en ligne, le volume d'engins explosifs vendus ne cesse d'augmenter, encore en progression de 11% pour ce réveillon. Tenez-vous bien, en quelques heures, les Allemands ont envoyé en l'air 133 millions d'euros. Et au passage, évidemment, des milliers de tonnes de microparticules toxiques. C'est l'équivalent aux pollutions de 15% du trafic automobile de toute l'Allemagne en une année. Donc voilà, en quelques heures, tout ça, ça part dans l'air. D'après les experts, il faut attendre la fin du mois de février pour que l'air des villes en Allemagne soit totalement débarrassé de ce smog.
Mais Hélène, ça paraît complètement paradoxal. Les Allemands sont réputés pour être assez écolo, non ?
Alors ça, c'est un mystère que je ne m'explique pas après toutes ces années à travailler ici comme journaliste. Okay. Mais je poursuis mon investigation. Hein, parce que oui, ils votent vert à plus de 20% maintenant. Ils trient leurs déchets, ils circulent à vélo. Mais le 31 décembre, c'est comme s'il y avait une soupape qui sautait. En fait, c'est 364 jours à respecter des règles. Ortnung, Ortnung, Ortnung. Ils sont assez pénibles sur ce côté-là. Et puis, il y a quelques heures à la fin de l'année, où ça dit n'importe quoi.
Est-ce que vous voulez rentrer ? Est-ce que vous voulez rentrer, Hélène ? On peut vous faire rentrer. Alors j'ai les moyens de vous faire rentrer.
Je fuis Berlin à cette période-là parce qu'en fait, la tradition débouche vraiment sur des situations complètement incontrôlables avec des scènes carrément de guérilla urbaine dans certains quartiers.
Mais on ne tire pas sur les gens.
Ah si, on tire sur les passants, sur les forces de l'ordre. On a quand même un policier dans le coma depuis deux jours.
C'est vrai,
dans les bus, dans les halls d'immeubles. Très à la mode en ce moment aussi, c'est les pistolets d'alarme qui tirent des balles à blanc. Et il y a aussi des bombes agricoles, des bombes assourdissantes. Et les fusées sont tirées directement depuis les balcons. Alors pour la petite histoire, il y a trois ans, et depuis je ne reste plus à Berlin, un feu d'artifice a cassé une des vitres de mon salon. J'habite pourtant au deuxième étage. Il a été tiré directement à l'horizontale depuis l'immeuble d'en face. Alors ça n'a pas pris feu. Mais quand même, avant-hier à Berlin, trois immeubles ont quand même brûlé. Et puis à Krefeld, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire, c'est le pavillon des singes du zoo de la ville qui a pris feu à cause d'une lanterne chinoise volante, qui est ce type d'engin est aussi interdit pour le nouvel an.
J'en ai lancé l'autre soir.
Voilà. Et bien, sachez que vous avez une trentaine de singes morts sur la conscience, peut-être. En tout cas, à Krefeld, c'est ce qui s'est passé. À l'exception de deux chimpanzés, tous les primates sont morts. Il y en a plus d'une trentaine donc, qui sont décédés, dont le plus vieux gorille qui était là depuis 48 ans.
Et alors, est-ce que ça fait débat en Allemagne ?
Alors oui, c'est la polémique de chaque fin d'année depuis environ 3 ans. Faut-il interdire cette tradition au nom de la défense de l'environnement ? Alors les Allemands sont clairement divisés, 50-50. Cette année, quand même, plusieurs villes ont instauré des zones blanches sans pétards et des chaînes de supermarchés ont volontairement renoncé à vendre tous ces engins pyrotechniques. Mais on l'a bien vu au taux de pollution, notamment dans les villes le jour du 1er janvier, qui était stratosphérique. Eh bien, ça n'a pas servi à grand-chose. Les Allemands ont continué à faire péter énormément de pétards et de fusées et des feux d'artifice un petit peu partout dans le pays.
Merci beaucoup Hélène pour ce témoignage. Hélène qui vit donc dangereusement. Hein. Vous avez fait remplacer votre vitre ?
Ah bah depuis 3 ans, oui.
C'est mieux.
Je me suis laissé dire
qu'il faisait chier à Berlin. Merci Hélène Cole. Et donc des zones blanches sans pétards. Voilà une belle initiative.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
En semaine, comme le week-end, il vous accompagne 2 heures durant pour vous mettre du baume au cœur et parfaire votre culture générale. C'est Mathieu Béliard, Mathieu Béliard qui était l'invité de Mathieu Noël d'ailleurs le 2 janvier. Ce sont les dernières minutes donc en compagnie de Mathieu Noël, Eva Rock et de nos journalistes, ici l'un de nos correspondants en région. Retour sur l'après-midi du 30 septembre dernier en présence de Patrick Timsit.
Francis Cabrel s'était déjà maintes fois posé la question « Est-ce que ce monde est sérieux ?» Question à laquelle il avait eu une réponse à l'été 2017 quand un certain Mighty Mike avait sorti un remix house de la Corrida.
Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement...
Vous avez arrêté avec cette musique, hein ?
Clairement non, le monde n'est pas sérieux. Mais si une chose devrait l'être, c'est la science. Or, je crois que là aussi, c'est en train de partir complètement en sucette puisqu'une grande expérience a été menée dans 13 villes de France à l'occasion de la Nuit des chercheurs pour désigner... le nounours le plus réconfortant. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Alors pour répondre à cette question essentielle, ce sont les visiteurs qui ont été mis à contribution.
Et oui, ce sont même surtout eux qui ont travaillé. Hein. Ils pouvaient venir avec leur propre nounours ou en choisir un sur la trentaine qui était mis à disposition. Un nounours pris en photo, étiqueté avec son nom commun et évidemment son nom en latin. Vous avez le nounoursus originalis ou le nounoursus timidus par exemple. Timidus. Et on lui fait subir toute une batterie d'examens pour le mesurer, taille, l'œil, tour de ventre, douceur à l'aide d'une réglette qui présente des échantillons de poils référence qui vont du plus ras façon couverture polaire au plus long façon chat angora. Toute une série de critères, donc un véritable inventaire morphologique comme un naturaliste, comme l'explique Hélène Pierre qui coordonne cette expérience ici à l'Université fédérale de Toulouse.
Prendre des nounours, les mesurer, mesurer l'écartement des yeux, la grosseur de leur museau, la longueur des poils, etc. Et donc, c'est une façon aussi de faire comprendre aux visiteurs ce qu'est un protocole de recherche, qu'est-ce que la démarche scientifique.
Mais une fois qu'on a entré toutes ces données, comment on va savoir lequel est le plus réconfortant ?
Eh bien justement, je sens bien Mathieu Gout trépigner d'impatience, mais j'y arrive car c'est là le moment le plus dur de l'expérience, le combat de nounours.
Oh
façon Mortal Kombat en 1 contre 1. Si, si, il faut y arriver un moment. Sur l'écran s'affichent 8 confrontations sans merci, pire qu'ici entre les chroniqueurs de l'équipée sauvage, c'est
non,
vous dire.
Non, c'est pas possible.
Mais si, je vous assure, puisque le visiteur devait donc répondre à chaque fois à cette question cruelle. À quel nounours as-tu le plus envie de faire un câlin quand tu es triste ou quand tu as peur? À lui donc de choisir l'un ou l'autre à chaque fois. Pas de match nul possible, il faut choisir. Et c'est là que l'expérience devient en fait très sérieuse, puisque ce que les chercheurs étudient, ce sont les critères qui nous poussent à choisir ce nounours plutôt qu'un autre. Quelles émotions entrent en jeu? Est-ce qu'une peluche qui a telle caractéristique ou telle autre est désignée davantage? Parce qu'en fait, le nounours n'est qu'un prétexte dans toute cette histoire. C'est nous qu'on étudie, comme l'explique Franck Amadieu, qui est chercheur en psychologie cognitive.
Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer au public à la fois la démarche rigoureuse en science et comment aussi on combine des sciences naturalistes où on va pouvoir décrire les caractéristiques des ours et comment on va s'intéresser à la subjectivité de l'individu en mesurant notamment son sentiment de réconfort avec l'ours. Et ça, c'est la psychologie qui va justement essayer d'investiguer ce sentiment chez les individus.
Alors ensuite, les données de cette expérience qui a été menée simultanément à Toulouse, mais aussi à Paris, Saint-Etienne, Besançon, 13 villes en tout. Tout est parti à Montpellier, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de cette expérience. Et dans quelques semaines, ils présenteront leurs résultats avec un indice de réconfortabilité pour chaque ours en peluche, pour les classer en fonction de leur capacité à provoquer des émotions chez l'adulte et chez l'enfant.
Réconfortabilité.
Réconfortabilité. À noter que Eva Rock possède un ours vibrant, extrêmement réconfortant.
Oui.
On l'embrasse d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Benjamin Fessel.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et oui, c'était l'équipe est sauvage. Rendez-vous demain, 16h, pour retrouver Mathieu Noël, Eva Rock et toute la bande de cette équipée pour votre compilation du week-end. Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1, à suivre votre grand journal du soir présenté par Wendy Bouchard.